Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale en direct et en public à la MJC de Bourg-en-Bresse. Vous pouvez nous rejoindre à tout moment pour assister à l'émission. Je suis bien entourée ce soir, avec moi Cyril Méreux, chargé de communication au Théâtre de Bourg. Bonjour.
Bonjour.
Vincent Rochelecca, directeur du théâtre, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Et plus tard, nous accueillerons Lisa Curti et Anne-Claire Turc pour la MJC. Et enfin, notre invité du jour, un artiste multifacette, Bertrand Belin, bonsoir.
Bonsoir.
Radio B. Les bonnes ondes.
Bertrand Belin, vous êtes auteur, compositeur et interprète. Vous produisez des musiques pour des courts et des longs métrages. Vous jouez la comédie. Vous écrivez aussi des romans. Ce soir, vous êtes sur la scène du Théâtre de Bourg-en-Bresse pour présenter votre sixième album, Persona. Bertrand Belin, comment vous faites pour gérer tout ça ?
Ça paraît beaucoup quand on met les mots bout à bout comme ça dans la même phrase, on a l'impression que c'est, je fais tout en même temps, mais non, c'est successivement comme ça que les choses se font. Et puis, j'ai pas d'autre chose à faire de ma vie. Hein. Je bénéficie de tout mon temps libre. Et puis, ce temps libre est très occupé, du coup. Quoi. Voilà. Puis bon, écoutez, c'est les hasards des rencontres aussi. Des rencontres avec des artistes, bien sûr, comme un musicien qui s'approche beaucoup du cinéma et du théâtre, où on est amené à rencontrer des metteurs en scène, des gens qui viennent du coup vous voir sur scène après, puis qui fleurissent dans leurs esprits des projets pour vous. Et puis, comme il y a de l'amitié entre-temps, bon, bah, ça permet aux choses de se faire dans une certaine facilité, je dirais, quoi.
Bien. Moi, ce que je voudrais vraiment savoir, c'est comment ça se passe, le processus de création d'un album ? Par quoi on commence ?
Ah, c'est pas évident, ça. Bah, écoutez, je vais vous raconter une anecdote qui s'est produite hier soir sur scène. Il y a peut-être quelques auditeurs qui étaient au concert hier soir à Bourg-en-Bresse au théâtre. Il y a eu une machine qui s'est emballée à un moment donné. Vous savez, on a une machine, je ne veux pas dire que ce n'est pas un tourneur, une fraiseuse ou un truc comme ça, mais un petit synthétiseur, une boîte à rythme, un truc qui s'est mis à folayer un peu, vous voyez, qui s'est mis à vivre un peu seul, comme la révolte des machines, un peu comme dans Terminator.
Vous voyez,
le soulèvement des machines. Et puis qui a commencé à produire une chose inhabituelle et surtout pas désirée. Comme il y avait une série de petits impairs, les fils qui n'étaient pas bien branchés...
Les petits impairs franc-comtois.
Oh, je ne sais pas si c'est très localisé comme ça, non, je ne voudrais pas vous incriminer. Mais... Enfin, toujours est-il que du coup, j'ai improvisé sur ce petit bout de musique qui sortait tout seul d'une machine, un peu comme si, vous voyez, un robot se mettait à vous étrangler, quoi. Alors j'ai chanté Gare du Nord. J'ai eu ça qui m'a traversé l'esprit. La Gare du Nord, la Gare du Nord. Et puis ça a duré 20 secondes et puis bon, ça a fait une chanson très courte. Mais ma foi, je me demande si je vais pas la refaire ce soir. Vous voyez. Donc on ne sait pas si c'est pas une graine, un tout petit germe de quelque chose qui pourrait grandir. Et puis bon, bah, un album, ça commence un peu comme ça, par des accidents, des choses qui s'imposent à nous, quoi. Et puis dont on prend note ou pas, dont on se souvient. Et puis qui présente un intérêt à un moment donné, quoi. La surprise, c'est très intéressant pour ça, parce qu'on est tellement critique de soi, tellement exigeant aussi, quand on est en période de création, que bien souvent, c'est intéressant qu'il y ait des accidents, parce que ça nous permet de nous retrouver face à une matière musicale ou textuelle qui nous a surpris dans son apparition et pour laquelle on peut avoir un regard assez vierge, du coup... qui passe pas par toutes ces censures habituelles qu'on s'impose, quoi. Idéalement, c'est comme ça que ça commence, un album, un peu par accident.
Il y a aussi des thématiques qui reviennent tout au long de vos albums. C'est quoi qui vous inspire ?
Je sais pas, moi, ce qui m'inspire, je sais pas trop quoi faire de cette formulation, inspiré, je sais pas si je suis quelqu'un d'inspiré. En tout cas, je suis quelqu'un qui est sensible, comme chacun d'entre nous, au monde qui l'entoure, selon des proportions qui sont variables d'un individu à l'autre, mais sensibles à des choses qui reviennent souvent, c'est vrai, qui sont liées peut-être à l'enfance, qui sont liées à des expériences personnelles, mais je suis sensible, j'ai des obsessions, et ça s'entend dans mes chansons. Hein, alors c'est bien sûr la fuite du temps qui est un grand thème général de la chanson mondiale, qui est très, très employé, l'amour évidemment, mais enfin moi je suis très sensible à la question du déclassement social, à la question des solitudes contemporaines, à la question de quoi faire avec sa carcasse, quoi. En gros, que font les gens, comment font les gens pour vivre, comment se rêvent-ils, comment voient-ils les autres, comment se débrouillent-ils avec ce qui est d'effroyable et de merveilleux dans le métier de vivre, quoi.
Votre dernier album me semble plus urbain, moins lié à la nature, comportant en tout cas beaucoup moins de références aux plantes. C'est le fait de vivre à Paris ?
Non, pas du tout, parce que ça fait 30 ans que je vis à Paris. Donc,
effectivement.
Quand j'ai fait mon premier album, j'habitais déjà à Paris depuis 15 ans. Non, c'est pas ça. C'est simplement que je reviens. J'ai pas quitté la végétation et ce qu'on appelle, de manière tout à fait étonnante, la province. Non, j'ai quitté ma province, comme disait Charles Aznavour. J'ai quitté ma province, mais j'ai gardé de mon coin de là où j'ai grandi, en Bretagne. J'ai gardé beaucoup d'éléments qui sont constitutifs, qui m'ont construit, quoi. Bon, il y a l'océan, bien sûr, c'est présent dans mes chansons aussi, dans mes disques précédents. Et puis, une certaine solitude, je dirais pas campagnarde, parce que moi, j'ai pas vraiment connu la campagne. J'étais dans une petite ville. Bon, il y avait des territoires quand même à arpenter, hein, mais enfin, non, c'est plutôt les paysages désolés, parfois, les longs d'hiver, la pluie pendant 3 mois, tout ça. Bon, ça plonge dans un certain état d'esprit, quoi. Hein. Donc ça, je l'ai transporté. Mais enfin, que la scène se déroule à la campagne ou ailleurs ou en ville, finalement, mes chansons ne parlent pas d'autre chose. Je n'ai pas écrit des chansons sur la végétation. Oui. C'est jamais le sujet, c'est un peu le décor, c'est vrai. Et puis là, bon, je ne sais pas. Non, mais je pense que je suis sensible aussi au durcissement généralisé de l'information, du monde. Voilà, bon, à part un journal de TF1 qui nous parle de temps en temps du fromage pendant une demi-heure, le reste du temps, c'est le bitume, le feu dans les poubelles, les flics, voilà, c'est ça. Donc, bon, bah, je suis en plein dedans aussi de ce point de vue-là.
Justement, je reviens. Alors, peut-être le terme inspiration n'est pas le bon, mais toujours sur ce processus de création, vous marchez dans les rues, vous allez à la rencontre des gens. Comment ça se passe ? Vous regardez la télé ?
Ah oui, je regarde la télé. Je regarde la télé. Je vois bien à quoi ressemble une télé allumée, quoi. Je passe pas mon temps à la regarder, quoi. Mais enfin, je vois bien ce qui passe dans les canaux de la télévision. Hein. Il suffit de prendre le petit déjeuner dans n'importe quel hôtel de France et puis vous avez BFM dès le matin à 6h30 qui vous hurle dessus que je sais pas quoi, que machin a dit ça, etc. Bon, voilà. Donc c'est très important de s'informer. Je m'informe, je lis le journal tous les jours depuis des années et des années, et plusieurs journaux. Je suis très curieux du monde. Et c'est pas parce que je prétends le comprendre, mais au contraire parce que je ne le comprends pas, que j'essaye de comprendre. C'est ça, aller à la rencontre des gens, dans une certaine mesure. C'est-à-dire que les gens, par exemple, il y a des personnes que je connais qui vivent dans la rue près de chez moi, dont je connais le prénom, dont je connais la vie, dont je connais les enfants quand ils en ont, dont je connais la cartographie un petit peu de leur aventure si bouleversante, quoi. Donc, dans ce cas-là, je peux dire oui, je vais un peu à la rencontre des gens, j'ai cette curiosité, et puis surtout une nature qui m'y porte, quoi. La conversation, quoi. Je sais que le silence, je sais que ce qui est très difficile aussi, on peut offrir du temps et de la parole aussi aux gens qui sont souvent en grande souffrance de plusieurs points de vue, hein. Bien sûr, le logement. La nourriture, mais la parole aussi, c'est quelque chose qui est très important dans la vie des gens, des humains. Donc on peut aussi donner ce temps-là, quoi. La parole, très important.
Justement, les mots ont une grande importance pour vous. Souvent, dans les chansons, il y a des répétitions de mots, presque jusqu'à les polir, à les vider de leur sens et à leur donner simplement de la sonorité. D'où vous vient cet amour des mots ?
Ça vient. L'amour des mots, je ne saurais pas exactement dire d'où ça me vient, mais ça. En tout cas, c'est vrai que c'est très ancien. Lorsque j'étais enfant, déjà, comme beaucoup d'enfants, hein, l'apprentissage du langage passe par des jeux. Hein, donc, des jeux, soit qu'on nous donne à faire, mais bon, moi, c'est plutôt des jeux que j'ai inventés moi-même, qui existaient déjà par ailleurs, mais que j'avais le sentiment d'inventer moi-même, quoi. Et donc, le calembour, le mot, vous voyez. Par exemple, lorsqu'un enfant découvre que dans parapluie, il y a pluie, c'est une trouvaille, et là, le mot se scinde en deux comme un objet, comme un morceau de pain qu'on coupe en deux, il y a pluie d'un côté, puis para de l'autre, qu'est-ce que ça veut dire para ? Puis il s'aperçoit que parachute, il y a para aussi, oui. Donc c'est comme des petites mécaniques, quoi. Moi j'ai eu cette vision-là très 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 jeune, très petit, et puis... ça m'a toujours resté, quoi. Et j'étais, j'étais très jeune à faire des calembours et des jeux de mots, quoi. Pas forcément pour faire rire, mais des choses qui me paraissaient étranges. Et d'où ça me vient, je saurais pas dire, mais j'ai cet instinct-là par rapport aux mots, quoi. J'aurais eu ça.
Du coup, comment s'est fait le lien avec la chanson, la mise en musique de ces mots ?
J'ai commencé la guitare lorsque j'avais 12-13 ans. Et puis, j'ai toujours voulu jouer de la guitare. Hein. J'avais très envie d'avoir une guitare. J'ai finalement eu une guitare lorsque j'avais 12 ans. Et puis, j'ai commencé à apprendre quelques accords, puis reprendre des chansons de chanteurs que j'aimais un peu plus tard, hein, vers 13-14 ans, 15 ans. D'abord des trucs anglais, etc. Puis ensuite des chansons en français. Puis me rendant compte que j'aimais les mots et que j'aimais écrire, il s'est trouvé que par chance je jouais de la guitare. Donc la chanson a été pour moi la première, une opportunité pour poursuivre dans cette curiosité du langage, quoi. Je dis tiens, je peux faire des chansons. Je ne me serais pas mis à écrire de la poésie ou à écrire des livres à l'adolescence, mais je pouvais quand même écrire des chansons et ça me permettait d'avancer un petit peu dans cette voie, quoi. Parce que la chanson, c'est un art très populaire. C'est une discipline à laquelle on peut s'essayer sans risquer, vous voyez, d'être accablé par l'ignorance, quoi. À tort ou à raison, c'est peut-être pas juste, hein, mais enfin, ça fait moins peur d'écrire une chanson quand on a 14 ans que de se dire, tiens, je vais écrire un poème ou un livre ou une histoire. Donc, il n'y avait pas cette majesté, si vous voulez, cette aristocratie du langage dans la chanson populaire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire des chansons.
Un des autres éléments qui marque quand on vous découvre, si on ne vous connaît pas, Bertrand Belin, c'est votre voix. Elle fascine, une voix grave, chaleureuse, posée, calme. Comment vous l'apercevez-vous, votre voix ?
Je ne l'aperçois pas tellement, ma voix. Je suis comme tout le monde, de ce point de vue-là. Quand je surprends ma voix dans un répondeur, où, vous voyez, on est gêné, on dit
c'est
pas possible,
c'est
moi qui parle comme ça.
Pour un chanteur, de se dire ça.
Ah oui, oui. Le chant, ce n'est pas pareil que parler encore. Hein. C'est encore je ne sais pas trop comment aborder le sujet, c'est délicat, mais quand on chante, vous voyez, ce n'est pas exactement la même chose. Hein. Si je m'entends chanter, je peux mon oreille, mon écoute, mon exigence peut se porter vers la justesse des notes, le rythme, des choses qui sont contraintes par l'environnement musical. Mais quand on parle comme ça, sans musique, dans le parler quotidien, bonjour madame, bonjour monsieur, je voudrais deux croissants, un pain au chocolat, s'il vous plaît, ou je sais pas quoi. Là, comme on parle tous les jours, si on s'écoutait, s'il y avait un micro de surveillance et qu'on se réécoutait le soir, dire quelque chose de tout à fait ordinaire et quotidien, ça nous met dans une sorte de gêne un peu de s'entendre. Moi, je suis toujours sensible à ça, je suis comme tout le monde de ce point de vue-là. J'aime pas particulièrement m'écouter. Donc.
On note un peu qu'au fil des albums, justement, votre voix, elle a évolué. Alors, est-ce que c'est des choix plutôt liés aux types musicaux des albums, parce que moi j'ai des souvenirs de voix plutôt plus haute sur les premiers albums et de plus en plus une voix plus posée et plus grave.
Oui. Je tiens à rappeler quand même que, comme nous le montre l'histoire humaine, évoluer ça ne veut pas forcément dire s'améliorer.
On est d'accord.
Elle a changé. Je prends de l'âge. C'est-à-dire qu'au début, quand je chantais, j'étais très inspiré par ma mère qui chantait, elle aussi. Elle ne chantait pas professionnellement, mais elle chantait de temps en temps, à certaines occasions, des chansons qu'elle aimait, de Dalida, de Yéyé, des trucs de sa jeunesse. Mmh. Quoi. Et elle chantait très bien, très juste, une très très belle voix, avec un genre de petit rossignol de Bretagne, vous voyez quoi. Et moi, quand je chantais, au début, j'essayais de retrouver cette chose-là, quoi, je crois. Sans vouloir entrer dans trop de sous-bassements psychanalytiques, mais je chantais un peu comme ma mère, quoi. Je peux encore chanter comme ma mère, hein. Quand je chante haut, j'ai hérité de ça, quoi. Ça arrive, hein, que les enfants ont la même voix que leurs parents. Des fois, c'est le geste. Des fois. Moi, par exemple, je marche comme mon père dans la rue et je chante comme ma mère. Voilà. Et puis, j'ai des frères et sœurs. Bon, ils ont hérité d'autres petites parties, d'autres qualités, d'autres défauts comme moi. Ma voix, elle a changé. Mais elle a changé aussi parce que dans mes premières chansons, j'idéalisais un peu la chanson. J'essayais de faire mes classes, donc mes maîtres étaient Trenet, Montand, voilà, enfin, je chantais des chansons qui étaient chantantes, quoi, on va dire, quoi, qui avec des rythmes et des structures de bluette un petit peu comme ça. Au moins en apparence. Donc ça me permettait de chanter haut parce que je disais des choses qui pouvaient se dire comme ça. Mais plus ça a été, plus j'étais rattrapé par ce que j'avais à dire ou malgré moi devais dire. Et donc ce sont des choses qui ne se disent pas comme ça facilement. En là-haut, en faisant l'alpiniste. Quoi.
Bertrand Belin, votre voix, on la retrouve juste après. Vous êtes toujours sur Radio B, nous sommes en direct à la MJC de Bourg-en-Bresse pour une émission spéciale en partenariat avec le Théâtre de Bourg et la MJC. Il est encore possible pour vous de nous rejoindre si vous souhaitez assister à l'émission. Autour de la table, Cyril Méreux et Vincent Rochelika pour le théâtre. Et elle nous a rejoint pendant la pause musicale, Lisa Curti, artiste circassienne burgienne. Bonsoir Lisa.
Bonsoir.
Et bien sûr pour cette émission spéciale, notre invité Bertrand Belin. Bertrand Belin, vous écrivez des chansons, vous écrivez aussi des livres. Est-ce que c'est la même chose ?
Bon, non, vous savez bien que ce n'est pas la même chose. Hein. Non, c'est bien. Non, ce n'est pas la même chose. Bon, ben voilà, je ne vais pas prendre trop de temps pour répondre à cette question, mais disons que, bon, ben, évidemment, le livre n'est pas soumis à cette durée si spéciale que la chanson connaît, c'est-à-dire une durée très courte, hein, 3, 4, 5 minutes. Hein. On pourrait très bien faire des chansons plus longues, mais depuis très 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 longtemps, plusieurs siècles, c'est la tradition humaine de faire des chansons courtes. Bon, la chanson de Roland, exception, hein, il y en a quelques-unes encore, mais enfin bon, c'est court une chanson, c'est court, donc c'est un art de la synthèse, puis c'est aussi un art du divertissement, où les questions littéraires se posent moins, se posent aussi quand même à qui veut se les poser. Hein. Mais enfin, on n'est pas emporté dans une, voyez, on n'est pas emporté dans un tourbillon comme avec l'écriture au long cours qui n'est pas contrainte par la musique. C'est-à-dire que on écrit et puis on est emporté ailleurs et on n'est pas obligé de penser à comment se passerait un concert. Vous voyez, quand j'écris un livre, j'en ai pas écrit beaucoup, mais jusqu'à présent, lorsque j'écris, je me dis pas « Oh là là, si je lis ça à quelqu'un, au bout d'une heure et demie ou deux heures, il va s'ennuyer. » Oui. Quand on écrit une chanson, on est un peu plus conscient que c'est une chose qui va être performée, quoi, devant le public. Quoi.
Vous venez de publier « Grand carnivore » aux éditions POL, un livre qui se lit comme une fable politique, avec pour toile de fond le cirque. C'est quoi votre rapport avec cet art ?
Bah, c'est un rapport de public, hein, public de l'enfance. Le cirque est bien beaucoup plus que ce que je pourrais en dire. De mon expérience d'enfant, j'allais au cirque lorsqu'il se pointait à Quiberon, sur un terrain vague. Il y avait le cirque qui arrivait l'été. On allait voir la ménagerie, les animaux sauvages. Je me souviens pas d'être allé voir les spectacles, mais parce que on part tout simplement parce que les ménageries étaient ouvertes au public pendant la journée, puis le soir, bon, c'était plus compliqué parce qu'il fallait payer, puis c'était pas très facile pour ma famille à cette époque-là. Donc pour moi, le cirque, c'est les fauves. Hein, je dirais
c'est
ça d'abord.
Ce qui transparaît dans le livre, c'est ce cirque un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire.
Oui, mais c'est ce qui, en y réfléchissant, le cirque aussi, c'est quelque chose d'étrange qui, pour moi, dans mon imaginaire, représente. C'est un peu comme les cosmonautes, vous voyez. Ce sont des gens qui prennent d'immenses risques et qui nous mettent en spectacle ce risque et qui nous invitent à aller les voir dans des situations de péril. Situations de péril qui sont transformées en moments de grâce et en moments d'aventure et d'imagination, quoi, d'imaginaire qui s'ouvre, mais c'est toujours lié aussi à certains périls, du jongleur qui menace de faire tomber ses boules, au funambule qui se met dans un danger, le dompteur, enfin il y a énormément de choses quand même qui nous montrent avoir une sorte de frontière du monde qui est celle du péril, quoi. Et tout ça avec des musiques joyeuses, avec des costumes colorés. Bon, c'est vraiment, je trouve que c'est, il y aurait beaucoup à en dire de ce point de vue-là.
Très belle transition, merci à vous, puisque les cosmonautes, c'est aussi l'univers du théâtre. Vincent.
Oui, Bertrand, je vais vous poser deux, trois questions sur votre rapport aux autres arts de la scène. Mais avant cela, j'avais deux petits préambules. Le premier, déjà, pour vous remercier chaleureusement d'accepter cette invitation pour l'émission, à 1h30 d'être sur scène, parce que c'est un vrai cadeau que vous nous faites. Et que, voilà, on est aussi sensible aux œuvres des artistes qu'à leur volonté de partage et d'expliquer un peu l'envers du décor, parce qu'on est tous ensemble pour raconter tout ça, pour faire partager ça. Donc merci à vous. Puis merci également à Lisa. Je vais vous laisser reprendre votre souffle et puis reviens vers vous tout de suite. Bertrand, j'ai un petit quiz pour commencer. Je suis assez proche d'un de vos anciens profs qui m'envoie le petit mot suivant. Un formidable élève, pour apprendre une partition contemporaine, c'est vrai, il m'a étonné dans sa faculté à apprendre des lignes mélodiques particulièrement biscornues. Salut le bien de ma part, musicien, comédien, généreux, exigeant. Un prénom là-dessus ?
Gavin ?
Non, Gérard.
Ah, Gérard Lecointre.
Exactement.
Ah, oui.
Du coup, c'est vrai qu'on est dans sa région aussi, puisque oui, Gérard Lecointre, qui est le directeur du Théâtre de la Renaissance à Oulin, est un de vos anciens professeurs, avec qui vous avez gardé un lien depuis de nombreuses années.
Vous m'avez perdu un peu dans cette histoire de professeur, parce que Gérard Lecointre, qui dirige les percussions claviers de Lyon, et qui les a fondées depuis de nombreuses années, a été chef d'orchestre dans un opéra auquel je participais l'an passé, qui a donné une cinquantaine de représentations et qui a fait l'objet d'un travail de création assez intense avec une composition de Gavin Bryars. Et c'est vrai, des musiques contemporaines dans lesquelles il a fallu que je me glisse, mais aidé en cela par la soprano Claron McFadden, qui était ma compagnon de scène. Mais donc, il a été mon professeur, il a été mon chef, si on veut, pendant cette période.
Je vous ai induit en erreur. Ouais. Du coup, moi, ça me permet de rebondir aussi, peut-être sur... Il y a un lien particulier avec Lyon ou,
Avec Lyon ?
Oui.
Non, si ce n'est que J'ai travaillé de nombreuses fois à Lyon, au Centre de la Danse, avec Philippe Découfflé, il y a quelques années. J'ai joué de nombreuses fois aussi aux Nuits de Fourvière. Et puis il y a eu cette création au Théâtre de la Renaissance.
Calamity Billy.
Et au Théâtre de la Croix-Rousse, avec Calamity Jane, Billy the Kid. Ouais.
Qui tourne encore ?
Non, mais qui pourrait surgir à tout moment.
Et plus anecdotique, Bourg-en-Bresse ou Lain, votre premier passage en concert ?
Oh, je suis venu Lain, bah, ouais, vous allez me prendre en défaut de connaissance géographique, mais on est loin de Mâcon ici quand même.
Une demi-heure.
Oh, c'est tout près ça. La cave à musique, à Mâcon, il y a 25 ans, je pense. J'ai joué là-bas, hein, je pense. Oui, avec les Sons of the Desert, ça devait être vers 95-96. Donc, je ne sais pas combien de temps ça fait au juste, mais voilà. Non, mais c'est vrai que je suis venu dans cette région à chaque fois pour la musique. Hein. Je n'ai pas jusqu'à présent fait de connaissances suffisante pour revenir en vacances l'été et tout, profiter de l'air.
C'est un appel un peu, au public, aux auditeurs.
Je mens un peu parce que j'ai eu une invitation aujourd'hui de mon ami Beach.
On a évoqué votre pas de côté avec la littérature, avec le cirque, avec les musiques contemporaines. Moi, je voulais vous poser la question de votre rapport à la danse aussi, au-delà du cirque et à la corporalité, parce que c'est vrai que vous avez sur scène une manière de bouger assez particulière. Et est-ce que, du coup, vous êtes spectateur de la danse ? Est-ce que vous travaillez votre corporalité ?
Je ne travaille pas, mais je suis spectateur de la danse, oui. J'ai collaboré avec des chorégraphes à plusieurs reprises, en faisant de la musique, hein, en créant de la musique ou en interprétant sur scène. J'ai aussi fréquenté beaucoup de danseurs et de danseuses. J'ai partagé un moment de ma vie, d'ailleurs, avec une danseuse contemporaine qui m'a fait découvrir énormément de choses. Ça fait déjà quelques années, mais enfin, j'ai découvert beaucoup de choses avec elle. J'allais au spectacle. J'étais très sensible. J'ai découvert cet intérêt. Mais enfin, la danse s'intéresse aussi au mouvement en général, le mouvement en particulier du travail, qui est une chose qui m'intéresse aussi beaucoup, le corps au travail, quoi. C'est pas des choses que j'ai approfondies de manière, voyez, savante. Hein. Je suis quand même quelqu'un qui reste à la surface de l'instinct de ce point de vue-là. Mais enfin, oui, la danse, ça m'intéresse aussi parce que c'est une ressource du langage, hein, de l'expression, quoi, et qui peut faire des choses que les mots ne savent pas faire et exprimer des choses que les mots ne peuvent pas exprimer. Il en va de même pour la musique, hein, qui a aussi ses capacités propres. Et non, pour moi, danser sur scène comme je le fais, bon, pour moi, c'est à la fois, voyez, c'est à la fois pour faire vibrer ce qui existe de ridicule ou de gracieux dans un corps, et puis mettre en péril, voyez, ce qui est de l'ordre de l'appréciation par autrui d'une santé mentale en regardant un corps se mouvoir. Vous voyez, quand on voit un corps se mouvoir étrangement sur une scène de théâtre, ça va. Mais si c'est dans la rue, on appelle les flics tout de suite, vous voyez. Et donc, cette question de ce qu'exprime le corps, de l'état psychique de la personne qui en est le locataire habitant, occupant, bon, ben ça, c'est des choses qui m'intéressent, quoi.
Et donc, pour terminer ce petit tour d'horizon des autres arts de la scène, on remarque aussi que pour votre dernière tournée, les entre-morceaux, les intermèdes, sont très travaillés, voire théâtralisés. Est-ce que, du coup, vous avez fait appel à un regard extérieur, un metteur en scène sur ces parties-là en particulier ? Est-ce que c'est, voilà, encore une fois, le rapport au théâtre chez Bertrand Belin, ça donne quoi ?
Non, j'ai fait appel à personne de ce point de vue-là. Dieu m'en garde. Non, vraiment, ce serait aussi au-dessus de la force.
Tout est improvisé.
C'est-à-dire que ça dépend des soirs, quoi. C'est jamais pareil, quoi. En tout cas, s'il y a des choses qui se répètent, elles sont nées de la scène, sur scène, en présence du public, un soir, où il s'est passé une chose ou une autre qui m'a amusé, et que j'ai envie de revoir le lendemain, comme un baiser échangé qu'on a envie de revivre, quoi, ou une simple chose comme ça. Et puis, au bout de trois fois, peut-être, ça peut se faner, puis ne plus présenter d'intérêt pour moi, puis je passe à autre chose, et puis je passe à rien. Je ne prépare pas, avant de monter sur scène, je ne sais pas ce qui va se passer entre les morceaux. J'ai quelques petits bouts de répertoire, de choses qui peuvent me traverser l'esprit, je sais qu'à ce moment-là, ils peuvent produire tel ou tel effet recherché ou souhaité ou souhaitable selon l'accueil qui m'est réservé parfois. Hein, quand on joue devant un public assis, debout, qui ne se manifeste pas de la même façon, des fois qu'on a l'impression d'ennuyer, des fois au contraire. Vous voyez, bon, non, faut laisser ça libre hein, quand même.
Oui, enfin, ouais. C'était le sens de ma question. Vous avez un vocabulaire, une grammaire dans lequel vous piochez aléatoirement, ouais. Mais en tout cas, vous ne fixez rien.
Bah non, non, parce que vous voyez, on va faire plus de 100 concerts sur cette tournée. On peut pas se répéter comme ça. Au théâtre aussi, il y a un glissement comme ça, un petit peu la mise en scène, ou dans la danse, dans tous les spectacles vivants, il y a un metteur en scène qui est là pendant la création, qui, il y a des différentes écoles, hein, mais enfin, en général, on essaie de maintenir la mise en scène, vous savez ça mieux que moi, dans un état quand même de fonctionnement et d'efficacité de sa forme. Mais les interprètes, petit à petit, vont prendre un certain nombre de libertés au fil des représentations sur la route. Et puis, ça peut être l'occasion de faire des découvertes et d'embellir et d'améliorer certaines situations du spectacle. Ça peut être aussi l'occasion de le déliter et puis de le rendre un petit peu plus lâche. Et puis, à ce moment-là, il faut que le metteur en scène revienne ou son représentant et puis raffermisse tout ça. Bon, ben moi, c'est un truc que je fais aussi moi-même au cours de la tournée, quoi.
Merci Bertrand pour ce tour d'horizon. Je me tourne vers Lisa. Bonjour Lisa. Bonjour. Coup, vous êtes artiste de cirque de Bourg-en-Bresse, passée notamment par l'école de cirque associative ici implantée depuis de nombreuses années. Vous êtes plutôt équilibriste de formation, même si vous avez touché à d'autres agrès. Et puis là, vous êtes en ce moment en école de cirque à Toulouse.
Oui, c'est ça.
Me semble-t-il.
À Toulouse.
Ce portrait est à peu près fidèle, à peu près correct. Vous êtes aujourd'hui en répétition en ce moment sur cette période à la MJC. Vous pouvez nous expliquer ce que vous venez préparer, répéter, qu'est-ce que vous faites là en ce moment ?
Et ben là, je suis en résidence. On est trois artistes à commencer un nouveau projet. Du coup, il y a le rappeur qui s'appelle Rimé, Laurent Darmon, qui est pianiste aussi du coin, et moi-même. Et donc, on est sur le tout début d'une création de spectacle où on aimerait mélanger ces trois disciplines, ces trois arts, piano, voix et cirque, danse, mouvement. Voilà, c'est le début.
Au niveau du cirque en particulier, c'est plutôt quelle couleur de cirque, famille de cirque ou je ne sais pas, quelles sont vos inspirations, vos références, les compagnies que vous appréciez ou avec lesquelles, j'en sais rien, vous êtes interprète pour d'autres. Vous êtes plutôt dans quelle famille de cirque ?
Je dirais plus contemporaine que traditionnelle, en tout cas. Je ne suis pas tant dans le cabaret et le cirque trad, quoi. Moi, c'est plus le cirque contemporain qui m'intéresse. Il y a une liste de compagnies infinies. Il y a celle que j'aime beaucoup, c'est Accor et Accro, quand même, avec leur premier spectacle qui s'appelait Klaxon, et Dans ton cœur aussi, qui est quand même assez chouette. Ce genre de cirque-là, qui finalement est sous chapiteau, est quand même un peu... on pourrait se dire, ah bah, c'est un peu traditionnel, mais en fait... ils réinventent toutes les disciplines et ils arrivent aujourd'hui à mélanger justement le théâtre, la danse, la musique, le cirque, et ça devient le nouveau cirque, je crois, un peu, quand même.
Aujourd'hui, votre activité, elle est essentiellement d'interprète ?
Oui, aujourd'hui, oui. Oui, avec le projet qui démarre à la MJC, où du coup, je suis un peu plus...
En co-direction artistique ?
Exactement.
Et du coup, ça allait être ma question. Vous arrivez à vous projeter sur la suite ? Sur l'envie à un moment de signer des œuvres ou... Ou ce travail d'interprétation aujourd'hui vous satisfait pleinement pour exprimer l'artiste qui est en vous ?
Aujourd'hui, l'interprétation, ça me va bien. Enfin, moi, j'ai 24 ans et je suis assez jeune. Et du coup, j'ai pas le besoin pour l'instant de mettre en scène un spectacle et de prendre des gens sous ma responsabilité. Enfin, je me sens pas vraiment capable, en fait. Du coup, j'ai besoin, je crois, d'abord de continuer dans cette voie d'interprète pour... assimiler encore plein de choses qui, je crois, me manquent aujourd'hui. Et par contre, dans le futur, être gérer une compagnie, gérer une œuvre, ça pourrait être ça m'attire, mais pour plus tard, je crois, que d'abord j'ai besoin d'expérimenter un peu plus la scène en tant qu'interprète.
Bertrand, je vous pose un peu le même genre de question, parce que ce sujet m'anime en ce moment. Vous vous souvenez à quel moment s'est faite la bascule entre musicien pour d'autres et auteur, compositeur, interprète de vos propres créations, vous vous souvenez de comment ça s'est joué ?
Bah, ça a longtemps cohabité quand même, parce que c'est facile, hein, ça ne demande pas énormément de structure, d'infrastructure, d'écrire des chansons, donc j'ai commencé à écrire des chansons à l'adolescence, puis après j'étais projeté dans une vie de musicien qui accompagnait des projets, parfois dans lesquels je pouvais composer aussi, hein, comme la musique qu'on a entendue tout à l'heure. pendant l'intermède musical. Je ne sais pas si c'était un hasard ou quoi, mais
non.
C'était un groupe dans lequel j'ai joué, c'était la musique instrumentale. Tout le monde, tous les musiciens qui formaient ce groupe étaient amenés à composer. Puis bon, à un moment donné, bon seulement, c'est l'existence physique, plastique d'un disque que j'ai enregistré en 2005, qui a fait de moi tout à coup un chanteur ou un artiste reconnu comme tel, si vous voulez. Mais je l'étais déjà depuis. Enfin, je ne parle pas des lettres de noblesse que ça a ou pas. Non, j'écrivais des chansons depuis déjà longtemps, quoi. Simplement, à un moment donné, quand ça existe sous forme de disque, ça se voit. Il suffit d'une toute petite publication, que quelqu'un le dise dans la presse, et puis que vous devenez ce que vous avez toujours été, quoi.
Oui, c'est en ça que je trouve passionnant, c'est qu'il y a des artistes qui sont de formidables interprètes toute leur vie, et d'autres qui, dès l'adolescence, ont envie de signer quelque chose parce qu'ils n'ont pas envie que ce soit défendu par d'autres, ou parce que ou presque ça n'existe pas encore sur les scènes. Et c'est vrai que ce point de bascule, je pense que... Il y a des explications diverses.
Oui, il y en a, c'est vrai. Mais c'est vrai que le travail d'interprète aussi, être interprète, ça veut dire aussi répondre aux demandes de créateurs qui sont insatiables, naturellement, du point de vue des prouesses. Donc être un interprète, c'est aussi produire un travail quotidien bien plus conséquent que... ce que je fais moi, quoi. Si vous prenez un soliste de l'orchestre de Paris, par exemple, le premier violon, vous vous rendez compte la somme de travail qu'il faut pour être un interprète de ce niveau-là, quoi. Je trouve que les compositeurs contemporains aujourd'hui demandent à ces musiciens-là des prouesses qui sont presque inenvisageables il y a 30 ans, quoi. Et les limites sont toujours repoussées, donc c'est un travail immense d'être un interprète.
Nous sommes deux drôles aux larges épaules, de joyeux bandits, sachant rire et battre, mangeant comme quatre, puffant comme dix, qu'en vidant des litres, nous cognons aux vitres de l'estaminet. Le bourgeois difforme, tremble en uniforme, sous son gros bonnet, nous vivons en somme. On est honnête homme, on n'est pas mouchard, on va le dimanche avec l'ise blanche.
Colette Magny, Les Tuileries sur Radio B, une chanson que vous avez reprise, Bertrand Belin, avec Camélia Jordana. Nous sommes toujours en direct et en public à la MJC de Bourg. Autour de la table, Bertrand Belin, donc, Cyril Méreux et Vincent Rochelecca pour le théâtre de Bourg, Lisa Curti, artiste de cirque burgienne, et Anne-Claire Turc, chargée de mission culturelle à la MJC. Bonsoir Anne-Claire.
Bonsoir.
On ne pouvait pas se quitter sans faire le point sur les événements à venir dans nos différentes structures. Deux événements à noter pour le théâtre de Bourg, Cyril ?
Oui, dans un mois de novembre bien rempli, pour rester au plus près des thèmes abordés dans l'émission, j'ai sélectionné deux événements. Le groupe Des fourmis dans les mains, en formule trio, se promènera dans le département de l'Ain avec 8 concerts du 7 au 23 novembre. Vous retrouverez toutes les dates sur notre site. Vous pouvez également vous inscrire encore à l'atelier d'écriture qui sera animé par Laurent Fellot, le chanteur de Des fourmis dans les mains. Et puis je vous parlais aussi du spectacle La Chute des Anges, hein, qui est un spectacle de cirque chorégraphié de la compagnie L'Oublié Raphaël Boitel, que nous accueillerons pour deux soirées les 14 et 15 novembre, avec une soirée un peu plus le 15 novembre, puisqu'on fêtera la Nuit du Cirque, manifestation qui met à l'honneur le cirque sur tout le territoire à l'initiative de Territoire de Cirque, et qu'on fêtera ça en compagnie de l'ETAC, qui proposera ses impromptus dans le hall du théâtre à partir de 18h30.
Anne-Claire Turc, du côté de la MJC, aussi des dates à
oui,
noter.
Donc la première date à noter qui arrive, c'est le vendredi 15 novembre aussi, donc il va falloir choisir entre la MJC et le théâtre. Et donc nous, on accueille la sortie de résidence de la compagnie Inanna, avec un conte chorégraphique et musical qui est intitulé « La rivière sous la rivière ». Et donc c'est un spectacle qui traite d'un sujet qui est encore très tabou, les violences sexuelles qui sont faites aux femmes. Mais c'est un spectacle qui ne tombe jamais dans le sordide et qui aborde la question sous un angle très positif, celui de la reconstruction des femmes et de leur capacité de résilience. Voilà, et puis on accueillera aussi, deuxième partie du mois, le Festival des Solidarités pour deux soirées. Donc le 18 novembre, c'est une soirée partenariale, une soirée de rencontres et d'échanges qui mettra en lumière des personnes qui agissent pour les droits humains. Il y a notamment deux femmes palestiniennes qui parleront de leur engagement au sein d'une ONG de défense du droit des femmes et la projection d'un court-métrage qui a été réalisé par des jeunes du centre social de la Ressouze autour de la question de la place des femmes dans l'espace public. Et puis le 28 novembre, nous aurons une conférence gesticulée qui s'appelle « Travail libéré, démocratie monétaire et autres révolutions » et donc qui viendra questionner les dérives du capitalisme et comment nous pouvons rêver ensemble d'autres solutions qui permettraient de s'en émanciper.
Et un peu d'autopromo, du côté de Radio B, nous serons en immersion dans le quartier des Vennes à Bourg pendant une semaine. Ça commence le 18 novembre, ça se termine le vendredi 22 novembre à 18h avec à nouveau une émission en direct et en public dans le quartier. Donc venez nous rencontrer et nous écouter. C'est la fin de cette émission. Mille merci à vous, Bertrand Belin, pour votre présence. Merci à vous, Cyril Méreux et Vincent Rochelecca pour le Théâtre de Bourg. Merci Anne-Claire Turc, Lisa Curti et Alain Perrard pour la MJC. Merci à l'équipe technique qui a assuré la réalisation de cette émission, Pauline Bussy et Thomas Couty, et à Thierry Barbier pour la retransmission sur Radio B. Merci à vous pour votre écoute. Restez branchés sur Radio B. À 19h, Marie et Gérard vous emmènent en voyage entre hip-hop marseillais, nouveautés québécoises et électrofusion indienne. Et pour poursuivre avec Bertrand Belin, c'est ce soir sur la scène du théâtre à 20h. Bonne soirée.
Madame, monsieur, j'ai glissé Madame, monsieur, j'ai glissé Mon âme s'en était De ciel embrasé de Canadair Madame Monsieur J'ai glissé Madame, monsieur, j'ai glissé dans la diagonale, sioux, dans la boue, dans la lune, Dieu des hiboux, dans la rose blanche de Corfou, dans la tombe marine de Borbou, j'ai glissé dans la musique d'os des sous, dans un trou, dans une pente chaude, qu'importe où, dans le ramdam d'une tour, dans la gueule d'ange d'un loup. J'ai glissé dans la fraîcheur de l'aube à mon cou, bout à bout, bout à bout, bout à bout. J'ai glissé, je n'ai plus de paix, de paix, de pays, me donner du pain, m'en faire don. Fin de maudire les saisons.